Je suis racheté avec Dieu, je suis réconcilié.
De l'agneau. Déjà maintenant, nous aimons le chanter, célébrer cet amour si grand, si merveilleux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour cet amour qui nous délivre de la perdition éternelle, de l'enfer éternel, pour nous introduire dans ce ciel de gloire, de pureté, lavé par le sang de l'agneau. Seul, nous pouvons nous présenter devant le Dieu trois fois saint. Quel amour, quel sacrifice, ô Seigneur. Nous ne pouvons rester insensibles à cette œuvre de la croix, ton œuvre parfaite.
Amen.
Tu as dit « Tout est accompli ». Tu as accompli l'œuvre que le Père t'avait confiée. Désormais, nous pouvons être sauvés si nous nous mettons notre confiance dans ton sacrifice sanglant qui seul nous purifie, nous sauve et nous délivre. À toi notre louange, à toi notre amour. Merci Seigneur, nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Bénis encore ta parole maintenant. Inspire selon les besoins des cœurs, Seigneur, non selon ce que j'ai préparé, mais selon ce que tu as préparé.
Amen.
Merci Seigneur. Ouvre notre esprit et ouvre mon esprit, Seigneur. Car sans le ministère du Saint-Esprit, nous ne pouvons sonder tes Écritures, ni comprendre tes Écritures. Merci de nous aider les uns et les autres, Seigneur, afin que ta parole, qui est la parole de Dieu, porte du fruit dans nos vies et que nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est bon de rester dans sa présence. Connais chacun de nos cœurs. Et il veut nous aider à le glorifier Il veut nous attirer toujours plus près de lui. Que son nom soit béni. Nous allons, avant de prier ensemble, méditer la parole. Et comme aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte, nous allons lire ce récit pour nous imprégner de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Il est bon de venir et de revenir à la source, n'est-ce pas vrai? C'est à la source que l'eau est pure. C'est à la source que l'eau est fraîche. C'est à la source que l'eau désaltère. Si nous buvons à 500 mètres ou à 1 km de la source, il y a toutes sortes d'impuretés, il y a toutes sortes de pollutions. Ce n'est pas sûr. Il nous faut revenir à la source. Et nous allons voir ensemble les fruits d'une véritable Pentecôte. Des vérités toutes simples, mais indispensables à connaître et à reconnaître dans les temps que nous vivons, qui sont les temps de la fin. Il nous faut toujours plus être imprégnés de ce qu'est et de ce qu'était la vraie Pentecôte. Quels en étaient les fruits pour que ces fruits soient vus en nous et qu'ils se manifestent au travers de nous. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres le passage bien connu, Acte 2, à partir du verset 32 déjà. Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adresse à la foule qui est là. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, donc le baptême des adultes par immersion. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Avez-vous remarqué ici, ce ne sont pas les apôtres qui ont dit à ces chrétiens, « Allez, vous devez vendre vos maisons et tout. » Avez-vous remarqué cela? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On vous commande de faire ces choses-là. Et on vous dit encore, sinon vous désobéissez au Seigneur. Mais là, ce n'est pas du tout cela. C'est spontané, vous êtes d'accord avec moi? C'est spontané. C'était vraiment une action de l'Esprit. Ils avaient envie de le faire. Le Seigneur leur a mis à cœur. Ils le font. N'est-ce pas merveilleux? Aucune contrainte. Mais vraiment une liberté de l'Esprit. Quelque chose qui se fait dans l'amour pour le Seigneur et pour ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas merveilleux? Alors ensuite, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce récit est merveilleux, n'est-ce pas? Nous voyons là ce qui s'est passé, donc, ce jour de la Pentecôte. Et il est bon de méditer cela un petit peu dans les détails pour voir quels en sont les fruits. Les fruits d'une vraie Pentecôte. Nous devons savoir, connaître le vrai, si nous voulons discerner le faux. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas discerner un faux billet si vous ne connaissez pas le vrai billet. C'est de la folie. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas discerner les choses fausses qui se disent, qui se prêchent, qui se pratiquent, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai, ou ne sont pas assez imprégnés du vrai. Mes amis, les apôtres disaient pour moi, pour nous, il est salutaire de vous dire les mêmes choses, car cela est votre salut. Nous vivons un temps où nous avons la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, n'est-ce pas? Et surtout des choses agréables, n'est-ce pas vrai? Et nous sommes dans cette période-là. Et si le chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, est rempli de la parole de Dieu pour vivre près du Seigneur et connaître l'authentique, il se laissera séduire. Malgré ses bons désirs, malgré ses bonnes pensées, l'esprit du malin est plus fort que notre propre sagesse, n'est-ce pas vrai? Que notre propre force. Mais l'esprit de Dieu est plus fort que toute la puissance de l'ennemi. Alléluia! Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour connaître, discerner le faux, il faut connaître l'authentique. C'est la seule sauvegarde, mes amis. C'est pourquoi méditons quelques instants les fruits d'une véritable Pentecôte. J'en ai noté plusieurs ici, j'en ai noté 10, il y en a pas mal des fruits. Hein. Je ne peux pas les méditer en profondeur, sinon il nous faudrait 10 réunions. On pourrait faire 10 réunions avec ça. Mais enfin, je vais vous donner une corbeille. Vous savez, la Pentecôte, c'est aussi la fête de la moisson. Dans l'Ancien Testament, c'était la moisson quand la Pentecôte était fêtée. Et ce jour-là, il y a une belle moisson, 3000 âmes. Savez-vous que lorsque la loi a été promulguée, il y a eu 3000 morts? Ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel, eh bien, 3000 ont été tués comme un jugement de Dieu. Lorsque la loi a été donnée, 3000 personnes ont péri. Lorsque la grâce a été donnée, 3000 âmes ont été sauvées. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Les fruits d'une vraie Pentecôte. Le premier fruit est celui-ci. Le Saint-Esprit utilise avant tout la parole de Dieu pour parler et agir. le premier fruit que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Vous le remarquez quand vous lisez, ici on l'a bien vu, après avoir, verset 37, après avoir entendu ce discours. Vous comprenez ? C'est après avoir entendu la prédication de Pierre. Et vous savez, sa prédication n'était pas facile. Ils n'ont pas entendu des choses agréables, je vous assure. Vous savez qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour dire des choses agréables ? Désagréables, plutôt. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour dire des choses désagréables. Parce que c'est quand on aime les personnes qu'on leur dit la vérité, qui ne plaît pas toujours, n'est-ce pas vrai ? Mais qui est essentielle pour aider les gens, pour libérer les gens, n'est-ce pas vrai ? Après avoir entendu ce discours, donc un premier fruit, tout ce qui s'est passé là, les résultats, provenait donc de cette prédication. Et vous l'avez vu, il a utilisé David, il a parlé de Joël. Enfin, le Saint-Esprit a donné à Pierre toutes ces prophéties de l'Ancien Testament concernant le Seigneur, sa crucifixion, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Tout était prophétisé. Alléluia! Et alors il leur a dit, mais c'est vous qui l'avez crucifié. Selon la prescience de Dieu, c'est vrai, mais vous l'avez crucifié. Ce n'était pas agréable. Mais le Saint-Esprit a utilisé cette prédication de la parole pour parler au cœur et aux consciences. Amen. Alors le premier fruit de la Pentecôte est celui-ci. Le Saint-Esprit utilise toujours la parole, avant tout la parole pour nous parler, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Amen. Il y a donc là une vérité capitale. Le Saint-Esprit utilise la parole. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise, mes amis, nous devons utiliser la parole de Dieu aussi. Car Dieu ne confirme autre chose que sa parole. C'est lorsque nous prêchons sa parole que Dieu confirme sa parole. Amen. Et quand on ne prêche pas sa parole et qu'il y a quand même des confirmations, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait cela ? Ce serait une contradiction. Ce serait une contradiction que le Saint-Esprit confirme quelque chose qui n'est pas de la parole. Alors c'est donc autre chose qui se passe. D'où l'importance de veiller scrupuleusement. Si nous voulons une véritable Pentecôte dans notre vie, dans nos églises, il nous faut absolument revenir à ces premières réalités importantes. Si je veux que le Saint-Esprit soit libre d'agir, je dois lui donner l'occasion d'agir, l'instrument. Éphésiens nous dit bien que l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Voyez-vous, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est comme si c'était l'épée de l'Esprit. L'Esprit est comme une épée qui utilise cette parole pour convaincre, pour toucher. Amen. C'est là une vérité importante, capitale, que nous devons toujours bien garder en nous. Et c'est ainsi que cette parole prêchée fidèlement a rencontré la bénédiction du Seigneur. Et vous savez, c'était des choses désagréables. Mais quand le Saint-Esprit agit et que la parole est annoncée fidèlement, mes amis, même quand tout semble contraire, l'Esprit de Dieu est capable de faire de grandes choses. Même quand tout semble contraire, quand tout semble impossible, on se dit, mais avec un tel message, c'est la catastrophe. Mais non, mes amis,
ce que le Saint-Esprit veut utiliser, c'est toujours la parole de Dieu. Autrement dit, si vous voulez que l'Esprit de Dieu vous utilise, vous devez utiliser la parole de Dieu. C'est l'épée de l'Esprit. Sinon, le Saint-Esprit n'a rien pour agir, n'a rien pour se manifester. Il n'agit pas comme cela. Il agit toujours au travers de la parole de Dieu. Et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et moi, je l'ai vu vraiment, nous l'avons vu en Afrique tout spécialement. Et ce soir, une cassette qu'on pourra montrer, des miracles en Afrique, la simple prédication de l'Évangile. Simple prédication, mais en annonçant tout le conseil de Dieu, en prêchant la croix, les souffrances, la résurrection de Jésus, qui nous demande de nous repentir, de changer de vie. La simple prédication, Dieu la confirme. Et des aveugles voient, des sourds entendent, des paralytiques marchent, des fous sont délivrés. Sans même toucher un malade. Sans toucher un malade. C'est là. Et je me souviens, c'était spécialement au Bénin, quand en une soirée, il y a eu 8 aveugles guéris. 8. Un soir, 8 aveugles.
En même temps.
On était nous-mêmes étonnés. Moi, j'étais le premier étonné. On se demandait quand ils rendaient témoignage, est-ce que tu vois vraiment ? On était nous-mêmes surpris. C'est vrai, quoi ? Tu vois, t'étais vraiment aveugle avant ? Mais oui ! Mais c'est vrai ! Tu vois bien, est-ce que tu vois ma main ? Mais oui, je la vois. Oh, c'était tellement étonnant. Et vous savez, à un moment donné, quand je me souviens, ça m'est resté. Alors que Dieu agissait comme cela, un soir, alors que nous allions au stade pour faire la campagne, et qu'on attendait notre tour pour intervenir, il y a eu cette pensée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux d'avoir un évangile qui fonctionne. Un évangile authentique, que tu confirmes et que tu montres que c'est réel ce qu'on prêche. Ça a beaucoup fortifié ma foi dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on connaît la puissance de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de toutes ces choses de mise en scène pour essayer de faire croire que Dieu agit, que Dieu fait quelque chose. Nous n'avons plus besoin de tout cela. Quand on a connu l'authentique, nous n'avons plus besoin de l'imitation. Et l'authentique, c'est la parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée tranchante. Quelle puissance dans la parole. Et lorsque nous la prêchons, le Saint-Esprit est là pour confirmer cette parole. Amen. C'est cela. Oui, et dans tous les réveils qu'il y a eu, mes amis, dans tous les vrais réveils, il y a toujours eu un retour à la prédication fidèle de la parole de Dieu et de l'Évangile. Amen. Tous les réveils ont remis en évidence la parole de Dieu sur l'autel. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu était libre d'agir. Amen. Deuxième fruit, le Saint-Esprit convainc de péché. Maintenant que la parole de Dieu est annoncée, Dieu confirme sa parole. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voyez-vous, un deuxième fruit là. Ils sont convaincus. Il y a quelque chose au plus profond d'eux-mêmes qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui utilise cette parole pour montrer aux personnes leur erreur, leur rébellion, leur désobéissance, leur péché. Quand on est vraiment sous une authentique action du Saint-Esprit et que la parole de Dieu est prêchée, mes amis, nous ne pouvons plus nous cacher. Nous nous voyons tels que nous sommes. Nous n'avons qu'un désir de fuir et dire « Mais je suis découvert !» Mais c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver à quelqu'un. Que cette lumière se fasse sur ton cœur. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler cela. Amen. Ni la psychologie, ni la théologie, ni la sagesse humaine, ni aucune religion ne peut convaincre de péché, ne peut révéler le cœur de l'homme tel qu'il est. Et lorsque nous entendons un tel message, nous nous écrions, « Seigneur, mon cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, aie pitié de moi !» Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Même après un message apparemment sévère, mais dit avec amour, le fruit de l'esprit, l'esprit a utilisé cette parole pour convaincre de péché. Et vous savez ce qu'il est dit ? Ils eurent le cœur vivement touché, et il est dit, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Avez-vous remarqué, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui fait l'appel, n'est-ce pas vrai ? Et là, c'est l'auditoire qui fait l'appel. C'est l'auditoire qui fait l'appel. Avant que Pierre adresse un appel, c'est l'auditoire, tellement convaincu, tellement dévoilé dans leur fort intérieur, réalisant qu'ils ont crucifié le Maître. Car Pierre revenait avec cette parole, c'est vous qui l'avez crucifié. Vous avez pensé que c'était un renégat, un malfaiteur. Vous avez pensé que cet homme vous trompait. Mais détrompez-vous. Il ne vous a pas trompé. Il a dit qu'il allait mourir, mais que le troisième jour, il allait ressusciter des morts. Il est ressuscité des morts. Amen. Cela vous prouve qu'il a dit la vérité. Amen. Il n'est pas un imposteur. Et il leur dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est là qu'ils furent profondément bouleversés. Comment on s'est trompé ? On s'est moqué de ce Jésus. On a pensé qu'il nous trompait. On a pensé qu'il égarait la foule. Mais voilà que c'est nous qui nous sommes trompés. Que ce Jésus était bien le Messie, annoncé par les prophètes, et qu'il a fait des grands miracles, des choses extraordinaires, pour montrer que Dieu était avec lui, qu'il n'était pas un imposteur, qu'il n'était pas un gourou, ou qui que ce soit qui égare la foule, mais que c'était le Messie d'Israël. Et c'est là qu'ils sont profondément touchés, dans leur cœur. Oh, nous nous sommes trompés, nous l'avons crucifié, nous l'avons rejeté. Et cependant, c'est pour nous qu'il était crucifié. N'est-ce pas merveilleux ? Merci Seigneur de réaliser cela. Si nous pouvons toujours plus réaliser ces choses, alors l'Esprit de Dieu agira encore plus dans nos vies. Et après, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils furent convaincus de péché. Le troisième fruit maintenant. Le Saint-Esprit amène à la repentance. Ce n'est pas le tout de dire « j'ai péché ». Vous savez qu'on peut pleurer sur son péché et ne pas l'abandonner, vous êtes d'accord avec moi ? On peut dire « oh oui, j'ai péché, j'ai fait le mal, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises », mais refuser encore de se repentir, d'abandonner notre cœur mauvais, notre rébellion. On peut encore le faire. On peut pleurer sur son péché sans l'abandonner. Mais lorsque le Saint-Esprit était à l'œuvre là, il y a eu un troisième fruit. Non seulement ils étaient convaincus de péché, mais ils avaient ce désir profond de changer de vie. Amen. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et vous savez, la repentance, bien sûr, nous n'aimons pas entendre parler de cela, mais la repentance, c'est vraiment le message qui nous libère, mes amis. Amen. Parce que nous ne voulons pas entendre parler de ce mot. Toute notre vie chrétienne, nous végétons. Parce que nous ne voulons pas, au fond de nous-mêmes, changer, car la repentance, c'est cela. C'est changer de pensée et changer de conduite. C'est réaliser qu'on a mal agi contre Dieu, contre sa parole, contre le Sauveur, et dire maintenant, je me repens de cela et je veux changer. À partir de maintenant, je change. Alléluia. Mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener à une telle repentance. Amen. Alors, toute manifestation de l'Esprit, mes amis, qui n'amène pas à ce changement radical, qui n'amène pas les gens à dire, eh bien, maintenant je me repens, je change ma façon de vivre, je veux désormais quitter. Et au moment où il a fait cela, il a dit, maintenant nous pouvons partir. Moi j'étais, je me souviens, sur la droite, là-bas au fond. J'avais 20 ans juste avant de partir à l'armée. Je voulais me lever, mais je ne pouvais plus me lever à ma place. Et là, au plus profond de moi-même, le Seigneur me montrait, maintenant, il faut que ça change. Tu connais la vérité, parce que mes parents étaient chrétiens. Maintenant, il faut que tu prennes la décision de changer radicalement. C'est le moment. Mes amis, nous ne pouvons pas nous repentir quand on le veut. On se repent quand le Seigneur nous appelle. Quand le Saint-Esprit nous appelle. Tu ne peux pas dire, ah mais moi comme le brigand, je me convertirai à la fin. Ah oui, il y a eu deux brigands. Il y en a un qui s'est repenti, mais l'autre pas. Il a attendu le dernier moment, celui-là. Et au dernier moment, il s'est encore endurci. C'est quand l'Esprit de Dieu nous parle que nous devons obéir. Amen. Et quelle libération, mes amis. Quelle libération. La repentance, c'est vraiment la clé de la libération. Alléluia. On verse des larmes, mais c'est des larmes de joie aussi. Savoir que maintenant, le pardon est accordé. Savoir qu'à partir de maintenant, une vie nouvelle commence avec le Seigneur. Alléluia. Les fruits d'une véritable Pentecôte. Seigneur, je me repens. Pas le remords. Vous savez, il y en a qui confondent remords et repentance. Judas a eu du remords, mais il ne s'est pas repenti. Il est allé se pendre malheureusement. C'était du remords qu'il avait. Il a peut-être pleuré même, mais il ne s'est pas vraiment repenti, n'est-ce pas vrai? C'est Pierre qui a péché et qui nous donne l'image de la vraie repentance quand il a renié son maître. Il est dit qu'il pleura amèrement lorsque le Seigneur l'a regardé. Alors que le maître était sur le chemin de Golgotha, Pierre a réalisé toute la noirceur de son cœur et aussi toute sa rébellion intérieure. Et il est dit qu'il pleura amèrement, comme pour dire, Seigneur, maintenant c'est fini. Je veux abandonner ma vie entre tes mains, me détourner de mon péché, de ma rébellion. Car le péché, c'est quoi, mes amis? C'est la rébellion. Le péché, c'est la rébellion, c'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut, c'est cela. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas tué ni volé. Ils disent, mais moi je ne suis pas pécheur, je n'ai ni tué ni volé. Mais le péché, ce n'est pas cela. Bien sûr, le péché, c'est cela. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Le péché, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Le péché, c'est la rébellion. C'est je fais ce que je veux. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous avez remarqué? Sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est cela le péché. Je fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Tu n'as pas été créé pour faire ce que tu veux. Tu as été créé pour faire ce que Dieu veut. Et tant que tu ne vis pas pour le Seigneur, tu es en état de guerre, en état de rébellion devant le Dieu trois fois saint. Tu as été créé pour être en communion avec lui. Et tant que tu n'abandonnes pas cet état de rébellion, jamais tu retrouveras cette communion avec Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, quelle bénédiction! Repentez-vous, et on voit que chacun s'est bien repenti de tout son cœur. Quelle libération! Quelle transformation! La repentance, c'est vraiment la clé de la délivrance. Un quatrième fruit, maintenant, de la Pentecôte, le Saint-Esprit nous amène à l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, on a été convaincu de péché, on s'est repenti, on veut changer de vie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, Pierre leur dit bien, ceux qui acceptèrent, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Voyez-vous, il n'y a pas de difficulté. Ils étaient tout disposés à obéir. Aujourd'hui, allez faire obéir à quelqu'un. Dis, oh non, mais moi, c'est mes parents qui étaient comme ça. Moi, je suis baptisé petit, je n'ai pas besoin d'être baptisé grand. Et ils sont entêtés dans ces choses-là, n'est-ce pas vrai? Et on s'entête. C'est une preuve que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Que la parole de Dieu n'a pas fait son effet. Mais un vrai fruit de la Pentecôte. Il nous amène à l'obéissance à la parole de Dieu. Ils se firent baptiser. La confession publique de sa foi. Être chrétien, c'est confesser publiquement sa foi. Et par le baptême, c'est dire, je suis mort à mon ancienne vie. Et quand on vous relève, c'est l'image de la résurrection qui veut dire, on me relève pour vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Alléluia! Et ces choses-là ne sortent pas du bout des lèvres, c'est quelque chose de profond. La vraie action du Saint-Esprit nous conduit toujours à obéir au Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons d'action du Saint-Esprit, mais pas d'obéissance à la parole du Seigneur. Chacun fait comme il veut, n'est-ce pas vrai? Et chacun obéit surtout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Pourrons-nous parler d'une véritable action du Saint-Esprit? Non, c'est une imitation. Mais l'authentique, c'est ceci. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. L'obéissance au Seigneur. Et le baptême d'eau est la première obéissance. Avez-vous passé par cette première obéissance? Il y en a qui veulent décrocher la lune, il y en a qui veulent faire des miracles pour Dieu, et je ne sais quoi, et ils n'ont même pas obéi au premier commandement du Seigneur pour le disciple du chrétien, du Seigneur. Cinquième fruit, le Saint-Esprit nous conduit à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Verset 42, il est dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ensuite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Un autre fruit ici, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Vous le remarquez, ici, la doctrine passe avant tout. Une vraie action du Saint-Esprit est toujours attaché à la saine doctrine. Amen. C'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre quand nous aimons la saine doctrine, quand notre foi est basée sur la saine doctrine et non sur des expériences qui changent souvent, mais sur la saine doctrine. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous, la première chose, c'était la doctrine. Et aujourd'hui, posez la question un peu dans tous ces milieux où soi-disant le Saint-Esprit est à l'œuvre. La doctrine, c'est ce qui divise. On n'en parle pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est exactement cela. Et ils vont nous faire croire qu'on vit la Pentecôte. Mais quelle Pentecôte? Quelle nouvelle Pentecôte? Quelle illusion? Quel mensonge? Lorsqu'il y a une authentique action du Saint-Esprit, notre premier désir, c'est d'obéir à l'enseignement des apôtres, de revenir à la parole de Dieu et à la saine doctrine. Alléluia! La doctrine vient en premier, avant l'expérience. Beaucoup de gens disent « Oh, mais moi j'ai fait l'expérience de telle chose. » Mais vous leur dites « Mais, c'est bien beau ça. Mais montre-moi dans la Bible où est cette expérience, dans les évangiles. »« Oh non, 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 c'est pas dedans, mais moi ça m'a fait du bien. » Ça m'a fait du bien. Puisque ça m'a fait du bien, c'est vrai. Vous vous rendez compte? Regardez, quel raisonnement. Puisque ça m'a fait du bien, c'est vrai. Si cette expérience n'est pas biblique, elle doit être rejetée. Même si ça vous fait du bien. Parce que ça, ça peut être une ruse du malin, n'est-ce pas? De vous faire faire des expériences où ça vous fait du bien pour vous éloigner de la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et nous nous faisons des illusions, nous pensons vivre de grandes choses, alors qu'en réalité on est en train de planer. En réalité, on marche sur une voie parallèle à la voie de Dieu, et on ne s'en rend pas compte. Cinquième fruit, le Saint-Esprit nous conduit à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Tout est dans la parole. Nous ne devons pas nous éloigner de cette parole. Amen. Et nous devons nous y attacher plus que jamais. Sixième fruit, le Saint-Esprit nous unit autour de la parole. Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et maintenant, c'est une unité autour de la parole. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité, mais sans la parole. On nous dit même fermons les Bibles, parce que tant qu'on a la Bible ouverte, on ne s'entendra jamais. Il vaut mieux fermer la Bible et comme ça on s'entendra bien. Et chacun peut dire et faire ce qu'on veut, aimons-nous comme cela. Un amour qui n'est pas fondé sur la vérité n'est pas le vrai amour. Mes amis, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui et que nous vivrons encore plus. Nous entendons beaucoup parler d'amour et d'unité, mais jamais de vérité. Par quoi? Parce que la vérité soi-disant nous divise. Vous savez une chose, mes amis, ce ne sont pas ceux qui prêchent la vérité qui divisent, ce sont ceux qui prêchent les fausses doctrines qui divisent. Bien souvent, on nous accuse, nous, ou vous, si vous voulez rester fidèles à la parole. Oh, Dieu, là, vous êtes sectaires, vous divisez les chrétiens. Parce que vous aimez la parole de Dieu, vous êtes attachés à cette doctrine, on veut vous culpabiliser. Vous jugez les autres, on vous dit. Et on vous rejette. Et si vous êtes faible, si vous n'êtes pas fondé, vous êtes impressionné par ces paroles, vous êtes bousculé. Mais laissez-moi dire une chose, ce ne sont pas ceux qui prêchent la saine doctrine qui divise le corps de Christ, ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines. N'est-ce pas vrai? Il y a un beau passage pour cela, Romains 16, 17. Romains 16, 17 nous dit ceci. C'est un passage important. Parce que aujourd'hui, on n'entend pas parler de ce verset. On entend parler de beaucoup de choses, mais pas de celui-là. Romains 16, 17, Paul dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ. » Notre Seigneur met leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous les hommes. Voyez-vous ici, ce sont ceux qui s'attachent à la saine doctrine qui gardent les chrétiens dans l'unité, dans la vraie unité. Mais ce sont ceux qui prêchent de fausses doctrines qui divisent. Donc ne vous laissez pas culpabiliser par ceux qui vous disent « Ah oui, toi avec ton attitude intransigeante et ceci et cela, vous divisez le corps. » C'est un mensonge qui vient du malin. Ce n'est pas vous qui divisez le corps. Ce sont ceux qui prêchent des doctrines étrangères. Et la Bible dit que nous devons nous éloigner d'eux. Des vérités fondamentales de la parole. Nous devons nous en éloigner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ils étaient dans la communion fraternelle, mais une communion, une unité en amour basée sur la vérité. Amen. Basée sur la vérité. Puissions-nous rester basée, fondée sur cette vérité de la parole. Et c'est ainsi que nous serons toujours remplis, renouvelés de l'Esprit Saint. Alléluia! Septième fruit, le Saint-Esprit nous ramène toujours au message de la croix. Verset 42, il est dit comme persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et la fraction du pain, c'était quoi? C'était la Sainte Cène. Il persévérait dans cette Sainte Cène et se rappelait continuellement les souffrances et le sacrifice de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, voyez-vous, toujours les ramener à la croix. C'est là que Jésus est mort pour toi. C'est là qu'il a payé ta dette. Et en prenant la Sainte Cène, il se rappelait tout ce que Jésus avait fait pour eux. Le Saint-Esprit nous ramène toujours à la croix où Christ a souffert pour nous. Si nous sommes lassés du message de la croix, alors nous nous sommes éloignés de la sainte doctrine et nous ne sommes surtout pas remplis du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous ramènera toujours au pied de la croix. Amen. Il prenait la fraction du pain, comme on l'a fait ce matin, il se rappelait ses souffrances, sa mort expiatoire. Ô Jésus, si nous sommes remplis maintenant, c'est parce que le sang de Jésus a purifié nos cœurs, c'est parce que le sang de Jésus a expié nos péchés, que maintenant le Saint-Esprit peut habiter en nous. Le Saint-Esprit ne peut jamais venir dans un cœur qui n'est pas lavé par le sang de l'agneau. Amen. Ne l'oublions jamais. Le Saint-Esprit et le sang de Jésus travaillent ensemble, comme le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble. Le Saint-Esprit et le sang et la croix de Jésus travaillent ensemble. Le Saint-Esprit nous ramène toujours au pied de la croix pour nous donner de réaliser l'amour extraordinaire de notre Sauveur. Jamais nous ne devons oublier cela. Et c'est ce qui faisait la force des premiers chrétiens. Lorsqu'ils croyaient au sacrifice de Jésus, ils étaient pleinement pardonnés, libérés. Aujourd'hui, il faut faire de la psychologie, de la psychothérapie, même dans l'Église. Même dans l'Église, on a amené la psychologie, la psychothérapie, je ne sais quoi, et des expériences de cultes orientaux pour essayer de délivrer, soi-disant, les chrétiens. Quelle folie! C'est parce que le message de la croix ne retentit plus avec autorité. À la croix, non seulement notre péché est effacé, mais nous sommes délivrés de la main de Satan. Alléluia! Nous sommes des chrétiens libres. C'est ce que la croix accomplit. Jésus a assez souffert pour nous pardonner et pour nous délivrer de la main de Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a publiquement triomphé d'elles en triomphant. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles par la croix. Merci Seigneur! Non seulement nous sommes pardonnés, mais nous sommes libérés. Le sang de Jésus accomplit cela. Croyons-le! Croyons-le! L'œuvre de Golgotha est parfaite. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous ramène à ces vérités, là où a lieu ta victoire. Mais le diable veut bien nous aveugler sur cela. À la croix, oui, à la croix, Jésus t'a pardonné. Et puis on entend souvent, à la croix, Jésus nous a pardonné en théorie, vous voyez, c'est la théorie. Mais en pratique, ce n'est pas comme ça. C'est ce que j'ai entendu une fois. Quand il est dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont... passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il m'a dit, mais oui, mais ça c'est la théorie, mais maintenant il faut la pratique. La pratique, c'est pas ça. Ah bon, je ne savais pas où c'est écrit. C'est écrit qu'en théorie, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est marqué la théorie. Quel est ce verset? C'est toi qui ajoutes théorie. C'est pas écrit théorie à côté. Et c'est ainsi que nous fabriquons des versets et que nous restons dans l'ignorance. Mes amis, le diable voudrait nous aveugler, n'est-ce pas, là-dessus? Il veut nous faire croire que ce que Jésus a fait finalement, c'est pas grand-chose, juste un petit peu, tout juste pardonner nos péchés, tout juste.
Et encore.
Tout juste. Mais après ça, il faut que l'homme y mette sa main. Il faut que la psychologie vienne. Il faut qu'il y ait des séances de délivrance, allez-y. Et plus vous en chassez, plus on en chasse. Plus vous chassez des démons, soi-disant des chrétiens, plus il y a des démons à chasser, vous n'en finissez plus. Et il faut de la guérison intérieure. Il faut revenir jusqu'à votre naissance. Jusqu'à la naissance, et même avant, il y en a qui vont tellement loin. Pour vous guérir, soi-disant des blessures de votre passé, de votre enfance. Où est-ce que vous avez vu Pierre prêcher comme ça? Où est-ce que vous avez vu Paul prêcher comme ça? Où est-ce que vous avez vu? N'est-ce pas un autre évangile? Il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, le message de la croix. Et c'est ce que j'aime prêcher, la croix de notre Seigneur Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et j'ai vu que Dieu confirme sa parole. La prédication de la croix est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la psychologie, la psychothérapie, la guérison intérieure qui est la puissance de Dieu. C'est l'évangile, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyons-le, mes amis. Voilà une véritable Pentecôte. Tandis qu'aujourd'hui, on parle de Pentecôte avec tous ces mélanges, toutes ces hérésies. Et on veut nous faire croire que maintenant, Dieu fait des choses nouvelles. Comment des choses nouvelles? Dieu aurait oublié son évangile? Il ne sait plus ce qu'il a dit il y a 2000 ans? Et il doit inventer un autre évangile pour nous libérer? Même si un ange du ciel venait, disait Paul, annoncer un autre message, qu'il soit anathème. Le message de la croix. Plus nous sommes remplis de l'esprit, plus nous réalisons que là, Jésus a tout accompli. Amen. Mais c'est ainsi qu'en Afrique, nous voyons des sorciers qui ont tué des gens, être délivrés instantanément. Et ici, vous voyez soi-disant des chrétiens qui ont dit un mensonge, qui sont allés voir une dizaine de bonnes aventures, il faut chasser 100 démons. Et encore, vous n'en sortez plus. C'est la confusion totale. L'autre, il a tué 10, 20 personnes. Et à la conversion, il est totalement délivré. Parce qu'il y a une vraie repentance. Quand ils se repentent, quand ils se convertissent, ils brûlent au feu tout ce qui était leur ancienne vie du diable. C'est cela la vraie repentance. Acte 19, 19. Ceux qui avaient fait des arts magiques, des choses diaboliques, eh bien, ils brûlèrent leurs livres, qui coûtaient cher, mais ils les brûlèrent. Mais il n'est pas dit qu'ils chassèrent des esprits de ceux qui avaient pratiqué des arts magiques. La repentance les a amenés à la délivrance. Amen. C'est cela l'évangile. Le Saint-Esprit nous ramènera à la croix, mes amis. Mais le diable voudrait nous empêcher de croire cela. Amen. Le Saint-Esprit, un huitième fruit maintenant. Le Saint-Esprit, vous voyez, quand on est vraiment animé de l'Esprit, le Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu. Ils prenaient, verset 47, leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Lorsqu'on est vraiment dans la présence de Dieu, rempli de l'Esprit, nous n'avons qu'une envie de louer le Seigneur, de le bénir, de l'exalter. Il est merveilleux, il est grand. Alléluia! Nul n'est comparable à lui. Ça, c'est un fruit de l'Esprit, d'une action de l'Esprit au milieu de nous. Il louait Dieu. Alléluia! Continuons de le faire. Le Saint-Esprit est là. Plus nous louons, plus nous serons remplis du Saint-Esprit. Vous l'avez remarqué? Vous avez vu ces moments qu'on passe dans la louange? Mais vous n'êtes plus la même personne, je suis sûr. Quelque chose en vous, il y a comme une source qui commence à couler, à jaillir en vous. C'est quelque chose de profond, c'est une réalité. Et les premiers chrétiens avaient compris cela, ils louaient Dieu. Aujourd'hui, on fait toutes sortes de manigances, mais la vraie louange n'existe pas. On tourne autour de soi-même, mais le Saint-Esprit nous délivre de nous-mêmes. Pour louer Dieu, pour ne pas penser à nous, mais penser à Dieu et aux autres. C'est alors que nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit. tandis que maintenant, on dit qu'il y a une action du Saint-Esprit, on ne pense ni à Dieu ni aux autres. On est des vrais égocentriques. On fait là un spectacle de nous-mêmes, ne pensant qu'à nous. Déshonorant Dieu est un mauvais témoignage devant les autres. N'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu. Alléluia. Oh, plus nous le louons, plus nous serons remplis de l'Esprit, que personne n'arrive à vous fermer la bouche. Continuez. Continuons, louons, glorifions le Seigneur. Alléluia. Et neuvième fruit, le Saint-Esprit conduit des âmes au Seigneur pour être sauvées. Amen. Le Saint-Esprit veut nous utiliser pour bénir les autres. Voilà un véritable fruit de l'Esprit. On est tellement touché qu'on ne peut pas garder cela pour nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? L'expérience qu'on a faite par la repentance, le changement de vie nous-mêmes, nous n'avons qu'un désir, c'est de le faire partager aux autres. C'est de dire, mais viens, c'est merveilleux. Toutes choses deviennent nouvelles, c'est merveilleux. C'est cela le fruit de l'Esprit, non pas de garder pour nous-mêmes. Mais dire aux autres, et je termine, le Saint-Esprit, le dixième fruit, nous donne la puissance pour être les témoins de Jésus. Acte 1-8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance-là est pour glorifier le Seigneur, parler du Seigneur, de sa parole, de son œuvre, de sa croix, de sa résurrection, de ce qu'il est merveilleux. Lui seul remplit nos cœurs et il nous envoie pour prêcher sa parole. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Nous sommes témoins de Jésus, mais Jésus est avec nous. On parle de lui, mais il est là. Le Saint-Esprit nous le rend réel. On n'est pas seul. Merci Seigneur, que son nom soit béni. Plus nous sommes remplis de l'Esprit, plus nous parlons de Jésus, et plus le Seigneur est là pour attester ce que nous disons de sa parole. Et c'est ainsi que le feu de la Pentecôte se propage. Le véritable feu, non pas un feu de paille, mais le véritable feu d'une Pentecôte qui bouleverse tout et qui nous donne de revenir à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Puissions-nous tous porter ces fruits. Une corbeille de 10 beaux fruits, méditons-les encore, chers amis. Et approfondissons ces vérités. Obéissons à ces vérités. Et plus nous obéissons, plus nous serons remplis de l'Esprit. Nous vivrons l'authentique et nous pourrons l'apporter aussi aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.